Merci à vous, Alexandra Duboucheron. Eh bien, cette semaine, c'est une semaine de florilège qui démarre à 17h. On se replonge tout de suite dans les archives de Par Jupiter et de Si tu écoutes, j'annule tout. Direction janvier 2015. Je vous laisse deviner qui était notre invité. Et un indice, c'est une chanteuse que j'adore.
Salut les amis.
Salut Charline.
Vous êtes prêts?
Ouais, ouais,
parce qu'aujourd'hui, j'adore l'invité, c'est Jeanne Chéral.
Moi aussi, je l'adore. Tu sais que Jeanne Chéral, on est la dernière émission de France Inter où elle n'a pas été invitée.
Mais non.
Si, elle a été partout.
Mais non. Elle n'est pas à service public.
Ah si, elle a prétendu à Guillaume Erner qu'elle était insomniaque. C'était un service public sur la qualité des nuits. Et
ouais. Mais non. Hey, pas la marge de l'histoire.
Si. Elle a dit à Jean Lebrun que c'était la petite fille cachée de Guy Moquet.
Attends. Affaire sensible, ça, c'est pas possible.
Si, elle a tué son épicier à coups de saucisson Justin Bridoux pour faire l'émission avec Fabrice Drouet.
C'est dingue.
Ah ouais. Et le téléphone sonne, c'est le pire. Une intervention féminine sur deux, c'est elle. Elle trafique sa voix. Ah oui, Hélène Jouan n'y voit que du feu. Quoi.
Ouais, mais et c'est chouette d'avoir une bonne cliente.
Ça va être super.
Sinon, les thèmes.
Il y a un truc sur la victoire de la musique.
Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Les chanteuses, c'est bien. Ouais. Ça leur a un avis.
Ouais. Et d'ailleurs, on la prendrait pas comme chroniqueuse musicale. Et comme ça, un jour sur deux, les gens comprendraient la chronique.
Non. Mais puis ce sera pas possible techniquement.
Ah bon, pourquoi?
Parce qu'en fait, Jeanne Chéral, elle peut pas être partout.
Mais pourquoi tu dis ça?
Vous saviez pas, c'est qu'elle est en train de faire des tests à la rédaction pour présenter les flashs de la journée.
À ce point-là? Et je vais quand même me méfier parce qu'elle va prendre ma place.
Ah bah, tu deviendras chanteuse.
Oh oui, j'adorerais. Et moi, je t'offrirai des perles de pluie. Ne pleut pas. Non. Et je changerai la terre jusqu'après ma mort.
Bonjour la France Inter, c'est Alex Vizorek et cette semaine on m'a autorisé, je me suis un petit peu imposé, à choisir mes émissions préférées dans l'histoire de Par Jupiter et de Si tu écoutes, j'annule tout. Chaque jour, deux choix, donc deux invités. Tout à l'heure, ce sera la légende Jean d'Ormesson, émission de 2014. Mais avant cela, une chanteuse chouchoute de France Inter, 2015, Jeanne Chéral.
France Inter, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Histoire de J, votre dernier album.
Mais qui est J ?
Eh oui, qui est J, sorti en 2014, en même temps que l'affaire Big Malion. Voilà, c'était comme ça. Mais Jeanne Chéral, il arrive qu'entre deux albums, vous sortiez une chanson. Ça arrive. Alors, c'était le cas notamment avec Si tu reviens, j'annule tout.
Mais oui, j'y ai repensé ce matin en me disant que je venais vous voir. Et voilà, je la chante jamais, cette chanson. Mais elle existe.
Vous l'aviez postée, on va dire, sur votre MySpace. Elle a été énormément écouté sur ce
site. Oui, je crois. Ouais, c'était un contexte assez marrant. Hein.
Et vous avez même dû vous justifier. Alors, raconter donc le fameux texto de Nicolas Sarkozy qui inspire d'abord le titre de cette émission aussi.
Ouais. Ah, je pensais que c'était ma chanson.
Il m'inspirait. Je suis très déçue. Il arrive parfois entre deux albums, il y a quelque chose qui vous inspire vous écriviez.
Tout peut être une inspiration. Hein. Et effectivement, ce texto, je le trouvais assez marrant. Si tu reviens, j'annule tout, j'annule ce que je m'apprête à faire, quoi. Et j'en ai fait une chanson d'amour, finalement.
Ah oui, si tu reviens, j'annule tout, nos écarts de langage, nos colères, nos passions de passage.
Voilà, ce qui est inspirant, après ça peut donner quelque chose de plus universel, quoi, un fait de société, quelque chose de un peu anecdotique comme ça peut après parler aux gens de manière plus large.
C'est la faille de Sarkozy qui vous a touché.
S'il y a bien un truc qui me touche chez lui, c'est bien ça.
Sa faille.
C'est la seule chose.
Dans un ordre d'idées plus différent et plus dramatique, mais il y a pas mal de chanteurs qui se sont emparés aussi, qui ont été inspirés et qui ont ressenti le besoin d'écrire sur l'attentat contre Charlie Hebdo. Il y a notamment Trio, Grand Corps Malade, Mathieu Chédid ou Francis Lalanne.
Ouais, mais c'est bon, on l'a déjà eu,
on l'a déjà eu. Vous, Jeanne Chéral, vous avez reformé ce qu'on peut appeler le collectif des Françoises, notamment avec Émilie Loiseau, Camille ou la Grande Sophie. Alors vous étiez plus nombreux, c'était à Bourges, c'est ça?
À Bourges, on avait deux Françoises de plus, qui étaient Rosemarie Standlet et Olivia Ruiz. Et là, le lendemain de l'attentat, donc le 8 janvier, on s'est retrouvés toutes les quatre pour... pour on s'est retrouvé une heure avant l'émission. On est allé chez Pascal Clark en fait
dans live.
Voilà, dans oui. live, on a écrit notre chanson. Enfin, alors, on l'a réadapté.
Comment ça s'est fait? L'attentat se produit, sous le choc, l'émotion, le bouleversement, etc. Qui a l'idée d'appeler l'autre?
En fait, au départ, Camille nous a téléphoné en nous disant retrouvons-nous sur la place de la République ce soir. Enfin, on s'est tous retrouvés, voilà, sous le coup de l'émotion, de la colère et du chagrin, quoi. Et ça nous a paru, ça nous a fait vachement bien, en fait, de se dire on va utiliser cette colère-là, cette énergie-là pour faire une chanson, pour faire ce qu'on sait faire, finalement.
André Manoukian, revenons-en à notre invité. Rappelez-moi qui c'est, parce que je...
Donc, c'est Jeanne Chéral, mais les animaux dans la nature ne marquent pas leur territoire, puisqu'on parle de territoire, qu'avec de l'urine ou des excréments, nous dit le philosophe. Pour marquer leur territoire, ils produisent de l'art. Le singe et son cul, multicolore dans le vert de la jungle, marquent la frontière de son territoire par la couleur. Il fait de la peinture. Ainsi, montrer son cul, ça n'est pas que de l'irrespect, ça veut dire attention, ici, c'est mon territoire. L'écureuil qui guette se lève et se rassied, tourne la tête à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la danse. Clara. Et l'oiseau qui envoie ses trilles dans les airs pour dire c'est ici mon territoire, il produit de la musique. Ainsi, délimiter son territoire revient à produire de l'art. Bon, exception faite pour ceux qui gueulent, on est chez nous.
Jeanne Chéral est très inquiète. Hein. Je décris la tête de Jeanne Chéral aux auditeurs. Où veut-il en venir?
Il faut distinguer l'artisan de l'artiste. L'artisan, c'est celui qui reproduit le même geste depuis des générations. Geste qu'il transmettra à l'identique. Ainsi, pendant des siècles, on va jouer la même musique. C'est l'écueil que connaissent les musiciens classiques qui ont perdu tout sens de l'improvisation. L'improvisation, ce rapport libre que l'on a avec son instrument ou avec sa chronique, et qui fait qu'on est capable d'exprimer dans l'instant ce que l'on ressent en musique. Et puis, il y a l'artiste qui se sert de son apprentissage pour apprendre un vocabulaire, mais qui va vouloir créer son sillon, inventer, générer sa propre musique. Générer, naître, ça a donné le mot génie. Les génies sont décaractériels. Le génie est en rupture, il faut une bonne dose d'ego pour être en rupture avec les anciens pour dire « les gars, c'est mon tour, je veux inventer ». Le problème, c'est qu'on ne peut pas inventer si on n'a pas assimilé tout ce qu'il y a avant.
Les stagiaires de troisième dans ce studio, vous lui ferez une rédaction après.
Vous pigez le truc, ok ?
On en est à la deuxième page.
La musique, c'est une affaire vivante, c'est un fleuve qui avance et il faut s'être nourri de tout ce qu'il y avait avant pour pouvoir proposer un nouveau discours. Mozart et les Beatles, ils étaient juste là au bon moment, s'il n'y avait pas eu les autres avant, il n'aurait eu ni le vocabulaire ni la technique pour avancer un nouveau propos. Donc, la musique est une histoire de fleuve, est une histoire de territoire dont il faut connaître les coins et les recoins. Le vrai boulot d'un artiste, c'est d'aller aux limites. L'écrivain doit aller à la limite du langage, le peintre aux limites de la couleur, le philosophe aux limites des concepts. Il y en a qui vont trop loin et qui se crament. Icare sur son cheval, Nietzsche qui avait des trop grosses moustaches qui ont tellement transpiré quand il a vu des choses qui
Icare
sont loin, mais jamais remis.
Il volait, Icare.
Oui, Icare avait un cheval.
Ben oui,
il s'est envolé. Non, mais il est peu connu. C'est sa passion, en fait. C'était un poney. On l'appelle ça poney.
Ah non, il avait ses ailes lui-même. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, parce que le cheval, c'est Jeanne. Voilà. Enfin bref, revenons. Jeanne Chéral.
On en apprend tous les jours.
Mais prenez des libertés, hein. Il n'y a pas de problème.
Jeanne Chéral est en apparence une jeune fille sage. Mais quand elle explore son territoire amoureux, oh là là. Mais alors, c'est pas du tout sage. Nager jusqu'au sexe de la terre, dit-elle dans J'ai faim. Viens goûter la figue à la crème que je te gardais pour carême dans Cheval de feu. Même Alex, il n'ose pas dire ça. À vous, Clara. Voilà une autre histoire de cheval qui pourrait se cramer. Au fond, qu'est-ce qui nous fait du bien quand on écoute Jeanne formuler différemment? Et puisque la musique est un fleuve, qu'est-ce qu'elle voit passer Jeanne sur la berge qui lui donne envie de se jeter à l'eau pour notre plus grand bonheur?
Votre chronique.
Et ben, Véronique Sanson, qui était un peu là avant, le piano, la douceur, le sens du crescendo, et puis la passion qui fait voler les cheveux, enfin les miens. Et le verbe littéraire qui swing sous les accords binaires. Quand les filles sages explorent la marge, quand les filles sages jouent avec les limites, quand les filles sages se déguisent en pirates pour détourner des équipages de musiciens, quand les filles sages refugent la sage position de l'Amazone pour aller au grand galop, les cuisses bien écartées sur le cheval.
Ah bah oui.
Quand les filles sages font péter les pianos comme les plus déjantés des compositeurs romantiques, courez aux abris car il est au moins une seule chose dont je suis sûr en ce bas monde, c'est que l'érotisme des timides est horrible. Je sais de quoi je parle, je suis super timide. Allez, on écoute. Bingo.
Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Je posais mes mains au hasard des personnes. La peau facile et le cœur à la Je n'attendais rien, je n'attendais personne. Pendant les va-et-vient, je comptais les klaxons. Un jour, un soir, il a brisé ma glace. Sans le savoir, il a trouvé sa place. Bingo! Qui aurait pu dire qu'on volerait aussi haut? Qui aurait pu l'écrire? Ah, ah. J'ai pas les clés pour la vie, mais je vais mourir avec lui. Personne. Tous les Parisiens me semblaient monotones. Avec son flair et sa forêt sauvage, il avait l'air de venir d'un autre âge. Je n'attendais rien, je n'attendais personne. J'ai plongé dans le bain où vont boire les lionnes. Et comme des fauves au coucher du soleil,
c'était Bingo de Jeanne Chéral. Vous êtes bien dans les florilèges de février. Ces florilèges qui nous font chaud au cœur quand il fait froid dehors. Ouais, c'est Jeanne Chéral qui m'inspire un peu, je crois. Mais je pense qu'il vaut mieux l'écouter. Après, il y aura Guillaume Meurice, il y aura Jean d'Ormesson et il y aura Fred Fromet. Gros programme. Mais là, on reste avec Jeanne.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Jeanne Chéral qui nous fait l'amitié d'être là. Premier sujet, alors hier, lors de ses vœux à la presse, Manuel Valls a parlé d'apartheid territorial, social, ethnique. Il existerait donc un apartheid made in France. Alors que faire pour lutter contre? Voici notre solution.
Je lave le blanc et les couleurs ensemble. Le blanc et les couleurs sont éclatants. Fini le triquitu.
Alors, quand Manuel Valls a sorti... mais c'est une solution. La lingette au écarlate, ou je ne sais pas quoi, on ne sait jamais. Mais écoutez, je cherche, moi. Alors, quand Manuel Valls a lâché ce mot apartheid, est-ce que vous vous êtes dit, oulala, le politique est encore dans la surenchère lexicale? Vous vous êtes dit, finalement, il n'a pas tort et il a du culot d'employer ces mots parce qu'il faut un électrochoc, il faut mettre des mots sur ce qui se passe. Est-ce que ça vous a interpellé, ce mot d'apartheid?
Ça m'a interpellé parce que c'est quand même hyper maladroit. Et je me suis dit, quand même, le français, c'est une langue hyper riche, pleine de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de synonyme en français. Hein, par exemple, on prend un mot et un mot très très proche, enfin, ce sera, je sais pas, le mot caché, secret, abscon, c'est jamais exactement le même sens, quoi. Et je me dis, il aurait pu quand même trouver un mot français, quoi. Ou quitte à en inventer un,
pas un mot africaneur, il est allé chercher
ou je sais pas, mais là, enfin,
ou simplement utiliser le mot ségrégation, ce que ça veut dire.
Ségrégitude,
ségrégitude, oh, c'est bon ça, ségrégitude.
Non, mais il est sans doute peut-être mal conseillé ou mal entouré. Enfin, j'imagine qu'il a plein de gens qui bossent avec lui. Je sais pas comment un mot comme ça a pu passer à travers les mailles de.
Mais est-ce que c'est pas le fond qui est plus important que la forme? Est-ce qu'une fois que, une fois qu'on a glosé sur le fait que c'était le mot employé qui était peut-être un peu fort ou un peu connoté, est-ce que finalement c'est pas le plus important, c'est qu'il pose des mots enfin qu'il ose parler sur une réalité que les politiques s'obstinent à nier ou à angéliser ou à mettre de côté depuis maintenant 20 ans?
Oui, sans doute, mais c'est une façon de le dire qui fait un peu contresens quand même, je trouve. C'est comme si c'était un apartheid imposé, quoi, imposé par le gouvernement. Enfin, c'est comme s'il presque
alors
le
qu'il
revendiquait
est subi,
alors qu'il
est ouais. en partie.
Et s'il avait fait ça pour qu'on parle de lui, tout simplement.
Mais pour faire le buzz.
Ouais. Par contre, alors le député UMP Pierre Lellouche a dit dans la presse, a réagi. Hein, Grigny ou Aulnay ne sont pas Soweto. Kouachi n'est pas Mandela, à moins que Manuel Valls ne se prenne pour De Klerk. Là, on est
ah
parti.
Bah c'est peut-être ça.
Oui, je pense qu'on est parti dans la stratosphère, en tout cas.
Oui, mais il y a le maire d'Evry, si je peux me permettre, qui a rajouté, on peut faire de la sémantique sur tous les sujets ou employer des mots plus doux qu'apartheid, mais la relégation, elle est bien là. Mm-hmm. Et donc, est-ce qu'il n'est pas temps, après le mot qu'on emploie, bon, c'est très souvent des gens qui ont grandi quand même sous les ordres de la... De beaux appartements comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit il n'y a pas de ségrégationnisme en France, il y a des problèmes d'inégalité et de discrimination. Est-ce que c'est pas avec ce genre de réflexion que finalement on n'avance jamais? En attendant, il y a quand même il y a deux communautés séparées, une qui a grandi avec un peu plus d'opulence que l'autre. Alors on peut dire apartheid, mot fort, mot pas mal approprié, mais n'empêche qu'il y a une réalité qui est là quand même.
C'était l'édito de Clara Dupont-Menon.
Clara, mais vous êtes de gauche.
En tout cas, il a mis les pieds dans le plat.
Nous sommes en compagnie de Jeanne Chéral. Allez, tout de suite, le deuxième sujet d'actualité. Comme Obama dans la Situation Room, ce matin, le Figaro reconstitue l'action dans la salle de crise de l'Élysée suite aux attentats. Et sur France 2, au journal de 20h, de sa voix déliée, Maryse Burgot a décrit la situation sans dramatiser à peine. Allez-y Maryse, on vous écoute.
Il est 11h30, ce mercredi 7 juin.
La France a peur.
François Hollande est dans son bureau. Une collaboratrice le prévient que Patrick Peloux cherche à le joindre d'urgence.
Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
Avant de partir, François Hollande a demandé par téléphone deux choses à Manuel Valls. Je veux que tu engages le plan Vigipirate Attentat. Je convoque une réunion de crise à 14h.
La France a peur.
Car François Hollande a déjà compris le choc que représente cet attentat.
Je précise que le tchou vient vraiment de France 2.
Oui. Père.
C'est ça, exactement. Mais ce duo inédit, Maryse Burgot, Roger Jiquel, était mixé grâce à notre réalisateur Benjamin Riquet. Alors, la dernière fois qu'on a beaucoup parlé des coulisses de l'Élysée, là, on a, dans beaucoup de médias, on a reconstitué les heures, les lieux, les conseillers, ce qui s'est dit, etc. La dernière fois qu'on a beaucoup parlé des coulisses de l'Élysée, c'était pour la photo volée de Julie Gayet dans la cour du palais. Oh, on est brusquement retourné à l'essentiel, semble-t-il.
Ouais, mais ceci dit, en fait, c'est tellement cauchemardesque ce qui s'est passé qu'on ne peut pas être préparé à ça, quoi. Enfin, je me mets à leur place. C'est tellement. La connerie humaine à l'état brut qu'on ne peut pas être préparé.
Qu'on est dépassé.
Ben, je pense.
Alors, justement, vous en parlez, dans le Figaro, on peut lire que François Hollande a géré la crise avec des collaborateurs qui n'étaient là que depuis 6 mois. Pour certains. Il y en a même un qui avait commencé son job le 5 janvier.
Et des stagiaires de 3e. En
fait. Quand il y a des articles comme ça sur les coulisses du palais, que ce soit en situation de crise ou pour la photo de Julie Gayet, etc. Ce côté coulisses du pouvoir, vous êtes friande de ça? Vous lisez dans la presse?
Pas trop. Bizarrement.
Vous pouvez scinder Julie Gayet de ce problème-ci. Hein.
Ceci dit, il y a plein de gens qui m'ont dit « Pourquoi tu ne ferais pas une chanson sur Julie Gayet ?»
Ils parlaient comme ça, les gens qui vous ont dit ça, nécessairement.
Troisième sujet, un drame, attention, un drame dans le monde de la musique. Là, on redevient sérieux parce que quand même, le chanteur Kenji Girac n'a pas été nommé aux Victoires de la musique.
Le drame, c'est que moi non plus, je n'y suis pas. C'est ça le vrai drame.
Vous avez
se décompose.
Vous n'avez pas gagné The Voice aussi, voilà.
Voilà, et pourtant, pourtant, il entame sa tournée, il est déjà 10 de diamant et malgré le succès, Kenji est peut-être passé à côté de plein d'autres choses.
Il aurait pu être un grand matador, un voleur de boules, un jeteur de sort.
Oh, il aurait pu être Daniel Guichard, par exemple. On a diffusé Daniel Guichard sur France Inter.
Ça lui fait un petit peu de droit d'auteur, on pense à lui.
Oui, voilà. Alors, il y a un aspect qui est assez rigolo, moi je trouve, dans les Victoires de la musique qui auront lieu le 13 février, c'est qu'il y a des rockers, des rappeurs qui se la jouent un peu rebelles et puis qui viennent comme des premiers de la classe rechercher leur prix sur la scène. Ça vous a pas frappé, ça, Jeanne Chéral?
Je sais même pas quoi en dire parce que, en fait, je me sens pas concernée.
C'est vrai, mais vous avez reçu une victoire de la musique.
Oui, non, mais je plaisante un peu, mais non, je vais appeler Kenji, puis on va aller faire un petit happening pour se plaindre de ne pas y être.
C'est une idée.
Mais qui décide Qui décide de qui est
Il y a tout un panel de votants qui sont des pros, en fait, des journalistes de France Inter.
Il y a un tiers de médias, un tiers de producteurs, un tiers d'artistes. En gros, c'est un collège qui est assez... Voilà, et c'est, alors, c'est vrai que, comme ce sont des gens du métier, ils ont peut-être des goûts un tout petit peu plus pointus, mais Jeanne, je ne comprends pas l'erreur absolue de cette année. Vous n'êtes pas nominée.
Mais oui, pour Histoire de J.
Bah alors.
Vous faites un carton en plus.
Oh, bah un carton, je sais pas. Moi non, aussi. Mais bon, voilà, je vis sans. Hein.
Nous, on vous donne un prix. Oui, on vous donne notre victoire à nous, notre victoire de cœur.
Vous savez, c'est comme les Césars au cinéma. Vous avez l'impression qu'il y a 5 films français. Ouais, en fait, qui surnage. Il y en a 5 qui. Alors, ils ont le César de art costume, la musique, réalisateur, acteur. Il y en a 5 qui tournent, durant toute la soirée de films.
C'est Christine and the Queens, ici, en l'occurrence, qui est le film français.
De toute façon, à partir du moment où Patrick Fiori a eu une victoire de la musique, je crois que ça n'a plus tellement de valeur.
Non, mais j'ai pas d'amertume, franchement. Non, je suis là, je râle un peu parce qu'on est dans un bon esprit par principe, parce que je suis française, merde. Mais bon, ça va, franchement, c'est pas obligatoire.
Vous disiez tout à l'heure que vous n'en vouliez pas à ces connards.
Allez, reste entre eux, c'est con. Ou allez, une dernière petite revue de presse.
Oui. What do you want?
Yes.
No problem.
Needs a no.
Oui. This is not a method.
News au kilo.
There is a bit more. Vous le mettez?
Again, the no.
Et une info comme vous les aimez qui vient de Belgique, Alex.
Oui, et je ne l'ai pas trop lu dans la presse belge, c'est vraiment, je l'ai lu dans le Dauphiné Libéré. Alors, je vous lis le titre comme il vient, ça s'est passé donc près de Namur. Hein. Il veut se suicider au gaz, se ravise, puis allume une cigarette.
Et oui, et vous avez des précisions.
Oui, je crois que ça vaut la peine de lire l'article. Il s'agissait d'un geste d'un désespéré qui a voulu mettre fin à ses jours au bord de son véhicule utilitaire. Il a allumé une bonbonne de gaz afin de mourir par asphyxie pour une raison inconnue. L'homme aurait changé d'avis, se serait donc allumé une cigarette. Ce sont les premiers éléments de l'enquête. Il n'était pas à sa première tentative de suicide. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il avait fait les précédentes fois. Selon la violence de l'explosion, le toit du véhicule garé sur un parking a fini dans un jardin d'une habitation à 100 mètres plus loin. L'homme souffre de graves brûlures, mais ses jours ne sont pas enchaînés.
Oh, il a tout raté. Merci Alex pour cette magnifique veille que vous faites sur les médias, parce qu'il y a des infos qui pourraient nous échapper, et grâce à Alex, elle ne nous échappe pas. Merci.
Et maintenant, c'est l'heure, comme toute la semaine, on va se l'imposer, de celui qui, pour l'instant, n'a qu'un seul parrainage pour l'élection présidentielle du mois d'avril. C'est vous dire s'il n'est pas prêt d'être notre prochain président. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est Guillaume Meurice qui, à l'époque, nous parlait de la fin de vie au Sénat.
Alors, est-ce que vous saviez qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, a lieu le débat sur la fin de vie? Un débat qui aura lieu aussi au Sénat, ce qui me semble quand même plus approprié quand on parle de fin de vie. Et ce matin, devant l'Assemblée, il y avait des manifestants radicalement opposés à l'euthanasie. Et il y avait certains badauds qui regardaient cette manif et qui, eux, étaient plutôt favorables à l'euthanasie.
Malheureusement, quelquefois, le soulagement ultime, c'est l'euthanasie. Donc le droit de suicide assisté est absolument normal, humain.
Oh, vous attendez un héritage.
Un héritage de quel niveau?
Ouais, c'est ça, ouais. Fais l'innocent. Bon, allons voir les manifestants. Eux, ils ne sont pas dupes.
Après ça, quand on a modifié la loi, on ne parle plus des cas critiques. On parle des autres.
C'est-à-dire?
C'est là où les lois sont tordues. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est pour les cas exceptionnels et puis après ça, on l'applique de façon générale.
Vous avez peur qu'on vous euthanasie après?
Bien sûr. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, on peut très très bien décider que... c'est plus... Et puis vous avez toujours des gens qui le demanderont pour d'autres.
Vous avez peur de vos petits-enfants?
Oh non. Non, ils sont très bien élevés.
Ouais, très bien élevés, mais faites gaffe quand même, monsieur. Faites attention à ne pas vous faire euthanasier par inadvertance au prochain repas de famille. Ça peut toujours arriver. Bon, on a bien sûr parlé de l'importance de préserver la vie, mais on a aussi évoqué la peine de mort.
Je pense que les flics font bien leur boulot. Ils les descendent avant qu'on ait besoin de les mettre en taule.
Voilà. Du coup, c'est un peu contradictoire avec votre discours sur le respect de la vie.
Ça, attendez, vous êtes France Inter, c'est normal. Donc vous avez toujours une façon de dévier le sujet.
Ah bon? Oui. Vous écoutez souvent France Inter?
Non, j'écoute pas la radio.
Ah oui, il n'écoute pas, mais...
Vous êtes un déviant, je le savais.
Ah, c'est France Inter, carrément, dans l'intégralité. Alors lui, il n'écoute pas, mais il sait d'ailleurs, en interrogeant des gens qui sont contre l'euthanasie, on apprend des choses.
On voit bien ce qui se passe en Belgique, hein, où il y a des dérives absolument impressionnantes, puisqu'on en est même à l'euthanasie des enfants.
Ah bon?
Oui.
Ah bah expliquez-moi ça, alors je suis pas au courant.
Si, je crois, en tout cas parler avec les informations que j'ai eues, certains enfants actuellement, considérés comme, comment dirais-je, indignes de vivre, sont éliminés.
Alors vous êtes sûr de cette information ?
Je l'ai lu sur les blogs auxquels je consulte, oui.
Eh ben bravo les Belges, hein, on euthanasie des enfants pas dignes de vivre. Alex, vous avez du bol, hein, vous avez eu de la chance de naître sans chemise, parce que sinon vous y passiez directement. Autre raison d'être contre l'euthanasie.
Parce que Dieu a dit, tu ne tueras point.
On est sûr de ça ?
Oui, oui. Voilà, et donc Dieu est un Dieu de victoire, un Dieu de vie, donc moi je veux communiquer la joie, la vie.
Mais Dieu, il a dit, tu ne tueras point, mais quand même, il tue lui-même.
Ah non, non, Dieu est amour, il appelle les hommes à la repentance.
Ben oui, mais bon, si on meurt, c'est bien de la faute de Dieu aussi, du coup.
Non, non, c'est à cause du péché.
Ah.
C'est le salaire du péché entraîne la mort. C'est à cause du péché que... l'homme meurt, en fait.
Ah, ben voilà, je vous avais dit que vous alliez apprendre des choses.
Manoukian
ben voilà.
Aurait dû être mort depuis longtemps.
Oui, c'est vrai que son espérance de vie vient de diminuer de moitié, André. Bon, qu'en est-il de notre interlocutrice ? Est-ce que vous péchez ?
Ben, ça peut arriver.
Votre dernier péché, repentez-vous.
Mon dernier péché ? Ça aurait pu être la médisance.
Ah, qu'est-ce que vous avez dit ?
Ben, ça peut arriver que je parle mal de quelqu'un, soit quand je regarde la télé, vous voyez ?
Aïe.
Aïe, vous voyez.
Vous avez dit du mal de Cyril Hanouna, par exemple.
Elle ne connaît pas. Désolée.
Ah, elle ne connaît pas. Mais c'est pour ça qu'elle croit en Dieu, d'accord. Ah oui, elle ne connaît pas Cyril Hanouna. Sinon, elle aurait eu certainement envie de se suicider, hein. À propos, est-ce que vous êtes contre le suicide ?
Oui, tout à fait, contre, oui, oui.
Est-ce que vous êtes pour punir les gens qui se suicident ?
Ah oui, oui.
Ah ben, elle a raison. Il faudrait même condamner à mort les gens qui se suicident. C'est d'ailleurs étrange de voir que ceux qui sont disposés à condamner à mort sont souvent les mêmes qui veulent condamner à vivre.
We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on.
C'était Billy Paul sur France Inter, Me and Mrs. Jones. Retour maintenant lors de la toute première saison de Si tu écoutes, j'annule tout. Septembre 2014, on avait 3-4 semaines d'émission dans les pattes et qui on reçoit? Une légende. Nous recevons un sourire, des yeux bleus et qui avait été tellement généreux avec nous, c'était Jean d'Ormesson.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Van Necker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter?
Merci d'être avec nous, Jean d'Ormesson. Alors, vous publiez Comme un chant d'espérance chez Héloïse d'Ormesson. Vous avez présenté votre livre très récemment.
Est-ce qu'il n'y a pas du piston déjà là? Est-ce qu'il n'y a pas du piston, Jean d'Ormesson?
Je ne fais que ça.
Et vous avez présenté.
Je le présentais un peu partout.
Vous avez présenté votre livre ce week-end à Bordeaux, me semble-t-il.
Oui, absolument.
Hein. Alain Juppé était au premier rang et vous avez achevé votre propos par cette phrase: la littérature, c'est quand même mieux que la politique. Alain Juppé vous a pris à part et on ne sait pas ce qu'il vous a dit. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il vous a dit après, Jean d'Ormesson, Alain Juppé? Il vous a dit qu'il se rasait tous les jours, ou je ne sais pas, quelque chose.
La tête, a priori. Ouais.
Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'il m'a dit?
Si vous pouvez, on serait flatté.
Un petit scoop.
Il m'a dit: je vous félicite. Je vous félicite de quoi? Je vous félicite parce que j'ai été, comme on dit, élevé à la dignité de grand croix de la Légion d'honneur. Par qui? Par Hollande. Et évidemment, Hollande est un adversaire politique. Et c'est lui qui m'a élevé à la dignité de grand croix. Donc, je suis très reconnaissant à Hollande. Et encore une preuve que la littérature, c'est beaucoup plus que la politique, puisque c'est un adversaire politique qui m'a fait cet honneur.
Oh, c'est un stratège.
Je voudrais en profiter, peut-être, pour dire que souvent, sur Internet, j'ai souvent attaqué Hollande, mais sur Internet, on me prête souvent des insultes à l'égard de Hollande. Ces insultes, je ne les ai jamais prononcées. Eh bien, je suis très content de profiter de France Inter pour dire ça.
Eh bien, c'est dit, Jean d'Ormesson. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure.
Mais oui, on en parlera tout à l'heure.
Évidemment, oui.
Est-ce que Grande Croix de la Légion d'honneur, ça aide un peu avec les filles ou pas, Jean?
Vous savez ce que je disais quand j'étais plus jeune, je disais: je méprise les honneurs, mais je ne déteste pas les accumuler.
Et premier sujet, tiens, le groupe UMP au Sénat a voté à bulletin secret pour choisir son candidat à la présidence du Sénat. Gérard Larcher est sorti de l'urne discrète, hein, c'était bulletin secret. Et quand on demande aux sénateurs si derrière Raffarin il y a Sarkozy et si derrière Larcher il y avait Fillon, tout le monde répond non, bien sûr.
Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con,
ouais.
Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons,
ouais.
Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons,
ouais.
Et vous
vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons.
Gérard Larcher, ex-président du Sénat, plus discret, plus d'expérience au Sénat, contre Raffarin, ex-premier ministre. Alors c'était le match Sarkozy derrière Raffarin, apparemment. Fillon derrière Larcher. Jean d'Ormesson, est-ce que François Fillon a marqué un point et que le retour de Sarkozy est une première embûche sur le chemin?
Écoutez, je crois que je lis un peu le journal comme tout le monde, et j'avais vu en effet que Sarkozy était plutôt pour Raffarin et Fillon. Je ne sais pas pour qui était Juppé, par exemple, non?
Et vous, c'est ça qu'il vous a peut-être dit ce week-end. Vous n'avez
rien dit. Il n'a rien confié là-dessus. Voilà. Et puis il y avait aussi Marigny.
Oui, bien sûr, le député de l'Oise, si je ne me trompe. Ouais. Mais alors, lui, il avait moins de chance, apparemment. Mais voilà. Il brigue autre chose. Hein. Il cherche peut-être un autre poste.
Le conseil constitutionnel.
Par exemple. Ça se passe comme ça.
Ce sera le lot de consolation. Un siège au Conseil constitutionnel.
Ça, c'était pas tant.
Oui, voilà. Il y a vraiment un système de vase clos qui est que si on n'est pas élu, bah, c'est pas grave, on retrouve son fauteuil doré dans une autre institution poussiéreuse.
Enfin, attendez,
c'est quand même ça. Tous les coups, on gagne.
Alors, c'est exactement ça.
Allez, vous êtes sur France Inter, il est 17h39. Et on parle d'un deuxième sujet d'actualité de cette émission, puisque Jean d'Ormesson a travaillé ses dossiers. Attention, les pharmaciens sont dans la rue, les notaires sont dans la place, les médecins sont là aussi. Allez, c'est parti.
Alors, messieurs, dames, si vous êtes venus pour l'homéopathie, vous allez me faire le plaisir de décamper dans les 30 secondes. Sinon, c'est moi qui vous fais sortir coup de pied au cul, d'accord? Je suis vulgaire, tant mieux. Parce que mon mari, il est allopathe, vous comprenez? Allopathe. Pas homéopathe, allopathe. Je reviens de la banque, on a un découvert de 20 briques. Grâce à quoi? À l'homéopathie. Avant, quand il était allopathe, il voyait entre 60 et 70 personnes par jour, 10 minutes chacun, une bonne grosse ordonnance bourrée de médicaments, paf, c'était emballé. À 150 francs par personne, vous n'avez qu'à faire le compte.
Jean d'Ormesson, puisque vous avez étudié le statut des pharmaciens, j'en profite. Tout le monde est dans la rue. En un demi-quinquennat, François Hollande a fait descendre tout le monde, jusqu'aux pilotes, jusqu'aux notaires, jusqu'aux greffiers des tribunaux de commerce. Est-ce qu'en France, si on n'a pas fait grève à 50 ans, on a raté sa vie aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Tout le monde réclame des réformes, mais surtout pas pour soi, évidemment, pour les autres, naturellement.
Ah oui, on voit ça, c'est vrai.
Je me rappelle, ça m'a amusé l'histoire des notaires et des... Parce que je crois que quand j'étais jeune, parce que ça va vous amuser, j'ai été jeune. Et ben, quand j'étais jeune, je crois que j'ai écrit quelque part que la seule réforme sérieuse, c'était de prendre 50 banquiers, 50 notaires, 50 greffiers et de les fusiller dans la place de la Concorde.
Mais vous êtes un anarchiste, Jean d'Ormesson.
Oui.
Un sale gauchiste.
Mais vous étiez un déglingot, mais c'est génial.
Jean d'Ormesson, médecin, notaire, avocat, pharmacien, tous dans la rue aujourd'hui. Et là, ça donne vraiment l'impression qu'on a un gouvernement de gauche, puisque les professions libérales sont dans la rue.
Eh bien, qu'est-ce que ça sera quand ce sera un gouvernement de droite?
Effectivement. Bon, alors, est-ce que vous aviez l'intention d'acheter un appartement aujourd'hui, peut-être? Parce que si c'est le cas... Non, parce que sinon, vous êtes pris en otage par les notaires aujourd'hui, on peut dire.
Ah oui.
Mais vous n'aviez pas cette intention.
Vous savez, il y a un personnage, il y a un député socialiste qui n'a pas payé ses impôts.
Oui. Vous rappelez Thomas Thévenoud.
Voilà.
Eh bien, comptez sur moi pour balancer des noms.
Il a dit qu'il avait une espèce de...
phobie de
blocage administratif. Oui. J'ai compris ça très bien. Chaque fois que je dois payer des impôts, je vous assure que ça m'est égal de les payer. Mais remplir ces papiers, c'est insupportable. Ça,
vous êtes donc solidaire avec Thomas
Fébrile. C'est vraiment un sommet.
Bah, déposez une enveloppe de cash la prochaine fois.
Oui.
On vous donnera l'adresse de Liliane Bettencourt, elle vous dira comment faire. Clara Dumont-Monod, Alex Vidorek, une réaction sur les notaires.
Vous précisez quand même, monsieur d'Ormesson, que si en tout cas les médecins sont dans la rue, c'est parce qu'ils refusent l'ultra-capitalisme sauvage que leur prévoit quand même l'avenir, puisqu'il serait question que des investisseurs privés entrent dans la société des médecins. Donc en fait, les médecins seraient dépossédés de leur outil de travail, et du coup, le fonctionnement de la société de médecine serait à la merci des actionnaires.
Oui. Voilà. Je vais vous dire, j'ai été un peu malade l'année dernière, je me suis pris de passion pour les médecins. Je trouve que les médecins sont des gens formidables. J'aime beaucoup moins...
Et les médecins libéraux, les pouvoirs publics ne les aident pas beaucoup.
Oui, bien sûr.
Vous aimez beaucoup moins les...
J'aime beaucoup moins les banquiers, les notaires, les écrivains que je trouve insupportables.
Vous savez quoi ? On
suffisant, léger, suffisant.
On attend un mouvement social des écrivains oui, et des éditeurs.
Bien,
on attend qu'ils descendent dans la rue. Il manque plus
dans la rue.
Et des animateurs radio, alors.
Ce sont des espèces d'intermittents dans le spectacle.
C'est des parasites.
Moi, je suis un intermittent du spectacle, vous savez.
Bah, écoutez, ça, on le constate aujourd'hui, vous savez. Vous le confirmez. Clara Dupont-Monod, justement, alors, vous êtes prête à descendre dans la rue pour manifester ?
Oui, pour les droits des écrivains, mais
oui.
Voilà, alors c'est pas
que pour votre gueule.
Écoutez, écrivain
pour défendre sa chronique.
C'est voilà, c'est pour défendre ma chronique, et puis un écrivain c'est tout seul, donc ça n'a que lui à penser. Mais comme nous avons un super écrivain sur le plateau, Jean Dormesson, eh bien, moi j'ai choisi de vous parler d'un autre super écrivain, et justement, l'actualité c'est le centenaire de la naissance de Romain Gary, que l'on fête cette année, alors un peu partout dans les festivals, les salons littéraires, dans les maisons d'édition. Romain Gary, je vous le rappelle, est le seul dans notre histoire française à avoir eu deux prix Goncourt. Deux fois. Le premier sous son nom Romain Gary en 1956 et le second sous le nom-prénom Émile Ajar en 1975, donc pour le livre La vie devant soi. À l'époque, personne n'a levé la supercherie.
Personne
de son vivant, personne n'a su que Romain Gary, c'était Émile Ajar.
Bonsoir à tous. Le 2 décembre 1980, Romain Gary se tirait une balle dans la gorge. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, et par le même geste, Émile Ajar s'était suicidé lui aussi. Car on croyait que Romain Gary et Émile Ajar, enfin nous ne savions pas que Romain Gary et Émile Ajar étaient un seul et même écrivain. Ce sera le 291e numéro d'apostrophe.
Ben voilà, ça ne nous rajeunit pas. Mais pour la promotion du Goncourt, Romain Gary avait envoyé son petit cousin pour faire croire que c'était Émile Ajar, parce qu'il fallait bien un corps et un visage pour incarner quand même l'auteur. Et donc ce cousin a donné toutes les interviews en
Paul Pavlovitch,
en expliquant pourquoi il avait fait ce livre alors qu'il ne l'avait pas fait du tout, ce qui le motivait, comment il avait écrit alors qu'il n'avait rien fait du tout. Alors la clé... Le code secret de Romain Gary, Jean Dormesson, vous allez voir, je l'ai trouvé. Il se trouve dans sa relation avec sa mère, avec sa maman. Il y a un tout petit livre publié chez Gallimard, qui est immense, qui est un monument, et qui s'appelle « Le sens de ma vie ». Et ce sont les derniers entretiens de radio qu'a donné Romain Gary, à peu de temps en fait, avant son suicide en 1980. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre ? Il raconte que sa mère, qui était russe, adorait la France, au point qu'elle avait décrété « Tu seras un grand écrivain français et tu seras un grand ambassadeur français pour représenter la France à l'étranger. »
Promesse de l'aube.
Voilà, exactement, ce qu'il a écrit dans la promesse de l'aube. C'était ses deux rêves. Elle était pauvre et au voyou qui encerclait Romain, son fils, elle disait « Mon fils sera ambassadeur de France et grand écrivain français. » Et Gary précise dans les entretiens, c'était quelquefois très gênant. Et sa mère est juive, mais, je cite Romain Gary, « Ma mère a fait de moi un catholique, parce que la France étant un pays catholique, la moindre des politesses était d'être catholique. » C'est vous dire la motivation. C'est-à-dire qu'elle va complètement former son fils pour être dans la culture française dont elle
pour
se fait.
Polie.
Voilà. Mais en plus, elle s'en fait toute une mythologie. Alors au début, Gary, il la déçoit. Il part à la guerre servir la France, mais son premier manuscrit est refusé chez Gallimard. On lui dit... Prenez une maîtresse et revenez dans 10 ans. Donc, il n'a pas suivi ce conseil.
Excellent conseil.
Il ne l'a pas suivi. Il s'est obstiné. Et en 1943, il publie son premier livre, Éducation européenne, qui sera un best-seller, traduction dans plus d'une vingtaine de langues.
Magnifique.
Voilà, magnifique livre, je suis d'accord. À ce moment-là, sa mère, on est en pleine guerre, elle est réfugiée en Suisse et elle ne cesse de lui envoyer des billets, des petites lettres très très courtes dans lesquelles elle dit « Continue à te battre » ou le fameux « On les aura » ou alors « Tu as bien fait de partir ». Elle l'encourage. Et ce courage-là, il lui sert à continuer à se battre à bord de son avion. Il devient héroïque et il décroche la Légion d'honneur. Ultime consécration. Pardon, en 1944, après le débarquement, le Quai d'Orsay l'appelle et lui propose de devenir diplomate. Donc, quand Romain Gary rentre en France, il a réalisé tous les rêves de sa mère. Écrivain français, ambassadeur, et en plus, il a la Légion d'honneur. Et il se précipite chez elle.
Et peut-être une maîtresse.
Il se précipite chez sa mère pour fêter ça. Et là, il apprend que sa mère est morte depuis 3 ans. Et qu'avant de mourir, elle avait confié à une amie suisse 200 petites lettres à poster comme si elle était vivante. Extraordinaire, hein ? Et Gary dit, elle s'assurait ainsi que le cordon ombilical continuait à fonctionner. Et donc cette fracture va étendre son onde de choc sur toute la vie de Romain Gary. Et au fond, c'est cette supercherie originelle de sa mère, qu'il va reproduire beaucoup plus tard avec Émile Ajar. C'est moi, mais c'est pas moi. C'est moi, mais c'est plus moi. J'écris, mais je n'existe pas. Voilà, je vous redonne les références. Le sens de ma vie de Romain Gary, paru chez Gallimard.
Voilà, Clara, je pense, je serai vous, je chercherai déjà un pseudo pour aller chercher votre deuxième prix.
Merci, Clara Dupont-Monod. Il y a le troisième sujet de cette émission. Sur Google, il y a ceux qui veulent apparaître à tout prix et ceux qui réclament le droit à l'oubli. La Cour de justice de l'Union européenne a contraint Google à retirer des écrits pour le droit à l'oubli. Il y a un grand brainstorming européen sur le droit à l'oubli qui s'est tenu à Paris. C'est l'objet d'une double page en Libération aujourd'hui. Alors, cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, je vous repose le cadre, hein, Jean d'Ormesson. Au mois de mai, il y a eu le cas d'un citoyen espagnol qui se plaignait de voir ressortir son souci de saisie immobilière, vieux de 98, quand on tapait son prénom et son nom sur le moteur de recherche. Peut-être c'est ce qui arrivera à Thomas Thévenoud dans 20 ans, on retire sa sortie sur la phobie administrative. Mais alors, Jean d'Ormesson, si on retire de Google des choses qui sont écrites, ça veut dire que les écrits aussi s'envolent.
Écoutez, c'est tout à fait intéressant, parce que qu'est-ce que c'est que Google ? C'est la possibilité de tout garder. Et une fois qu'on a tout gardé, voilà, on veut maintenant tout effacer. Eh bien, c'est tout le monde moderne. C'est les contradictions du monde moderne. J'ai vu, c'est dans un autre domaine, mais c'est exactement la même chose. Vous savez qu'il y a des fous de montagne qui veulent se promener dans la montagne et avoir des sentiers de plus en plus dangereux. Mais ils veulent en même temps que ces sentiers soient protéger et qu'on ne court aucun risque. On veut le risque et on veut le refus du risque. Oui. On veut que Google garde tout et puis on veut effacer. Au fond, c'est ça.
Et voilà. Oui, et ça veut dire aussi que tout peut être écrit puisque tout peut être effacé.
Et oui, naturellement. C'est ce qui est écrit. Il vaut mieux t'effacer avant d'écrire. Voilà. Alors, ne vous occupez pas de Google et essayez de vivre sans Google. Voilà le conseil.
Alors, vous, Jean d'Ormesson, quelqu'un vous a fait une page Facebook et quelqu'un vous a fait un compte Twitter très amusant.
Oui, que j'ai perdu, mais qui vous fait qui vous fait dire des choses comme
est-ce qu'on a des nouvelles d'Yvonne Lundell, par exemple.
Oui. Et là, on avait un très rigolo. Europe 1, c'est bien la radio des autocollants qu'on colle sur notre coffre de voiture. C'est vous qui auriez
c'est
dit ça.
C'est le faux compte Twitter.
Je l'ai retrouvé. Et vous dites, il était pourtant jeune, Stéphane Hessel. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle un compte parodique. Et il y a beaucoup de très chouettes comptes parodiques sur Twitter. Il y a notamment Dieu qui tweete régulièrement. Et c'est vraiment drôle ce qu'il dit.
Je crois qu'il prend le pseudonyme de Bernard Pivot.
C'est vrai, Bernard Pivot qui tweet beaucoup dès le matin, très tôt le matin.
Ça balance.
140 caractères, Jean d'Ormesson, c'est cool.
C'est des clashs d'intellectuels.
Moi, je vais vous dire, j'ai pas de monde, j'ai pas d'agenda, j'ai pas de fax, j'ai pas d'ordinateur.
Vous n'avez pas de téléphone portable.
Oh, mais évidemment pas.
Mais vous avez une assistante, c'est ça le secret.
Oui, elle a 85 ans.
Ah. Parce que elle n'est pas en retraite encore à ce stade-là.
Non, elle va très bien, elle est très gentille. Bonjour Dominique, ça va ?
Elle peut nous laisser un message aussi, figurez-vous, Jean d'Ormesson, car nous avons un répondeur téléphonique. Nous sommes modernes, une ligne fixe au 01 56 40 69 51.
Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Si tu écoutes, j'annule tout.
Et donc si vous laissez un message, eh ben nous, on écoute tout. Enfin, j'écoute tout.
Alex !
Vous avez 5 nouveaux messages.
Alors, ma petite chanson. Flyada, tana en pistacop, terunta spit, taspit teruntecop.
Nouveau message.
Bonjour, ce matin à 7h aux infos sur France Inter, j'ai entendu, si on habitait Montpellier, il fallait rester où vous êtes, il disait aux infos. Donc, j'étais au cabinet, et là, c'est 16h07, je voudrais savoir si je peux sortir maintenant.
France Inter.
Intervenez. Nouveau message.
Salut, Benjamin. Il recommence.
Nouveau message. Nouveau message.
Oui, bonjour. Moi, j'appelle pour poser une question à notre président. Au vu de la moyenne d'âge du Sénat, je voulais savoir ce que ça lui faisait d'avoir un Sénat de 100 ans. Merci.
Nouveau message. Voilà. Fin des nouveaux messages.
Eh bien, c'est bientôt terminé pour cette première édition de mes florilèges, mais quand même, j'ai gardé une vieille tradition. C'est une chanson de Frédéric Fromet en cerise sur le gâteau. Chanson de 2021, c'était la chanson qui a ouvert cette saison en août dernier. C'est un tube au top 50 en Afghanistan. C'est les Mollahs gagnants.
À m'asseoir avec un taliban, pour faire quoi? Pour marter les greluches tant qu'il y en a. Se parler du bon temps, celui de la charia, en sectionnant des mains pleines de doigts. Puis donner des coups de fouet au nom de Mahomet, lapider et lyncher pour de vrai. Interdire la musique, ça peut être salutaire quand il s'agit d'un disque France Inter. À Kaboul, on s'embête pas avec les neuneux, on leur coupe la tête. Le régime taliban qui s'abat sur eux, qui nie que les gens, c'est le Mollah gagnant. À marcher dans la rue, 5 minutes en burqa, ça bouche un peu la vue des nanas. Et les amputations que pour rire on pratique, ça fera des champions paralympiques. Et regarder ailleurs les antipasses sanitaires, rire à la dictature, à l'enfer. À Kaboul, les piqûres sont faites à la perceuse, et y a pas une manif de pleureuse. Pas de Florian Philippot, pas de Francis Lalanne, on a d'autres barjots à l'afghane. Les Jean-Marie Bigard et les Dupont-Aignan, on en ferait des tartares bien saignants. On peut pas donner tort systématiquement à tous les talibans. Revenons à Bigard, les pas plus attachants que le plus laid des clébards, le lévrier afghan. À m'asseoir avec un taliban, pour faire quoi? S'amuser à lancer des fatwas. Interdire aux pisseuses même de circuler, elles sont bien plus heureuses enfermées. On peut pas être barge de leurs yeux, c'est pas vrai, car ils ont l'avantage d'être cachés. Et puis rien à branler de leur rentrée scolaire, à quoi bon éduquer des ovaires? Se raconter enfin qu'il faut aimer la mort, l'aimer toujours plus fort. Quand on voit à Paris que le plus important c'est Lionel Messi et le PSG gagnant, pas les Mollahs afghans.
C'est fini pour aujourd'hui, ce bain de jouvence de l'époque où nous étions jeunes et beaux. Mais ça reprend demain et j'ai encore choisi 2 invités. Je suis sûr qu'ils vont vous plaire. Je le dis doucement parce qu'à France Inter, c'est pas certain qu'ils plaisent à tout le monde. Mais demain, on reçoit Enrico Macias et Hélène Rollès. À demain.